Bonjour et bienvenue à Histoire de s'en jaser. Cette semaine à l'émission, nous recevons Alexandre Prince, étudiant dernière année au bac en histoire. Bonsoir. Alexandre, merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir, merci beaucoup de me recevoir.
Donc aujourd'hui, tu viens de parler de la mode, mais particulièrement la mode africaine, et la reconnaissance des créateurs et des créatrices en Afrique noire entre les années 1980 et 2000.
C'est exact.
Avant de commencer notre entrevue, on essaie toujours de trouver, mais d'en apprendre un peu plus sur nos invités. Donc, quelques petites questions de parcours. C'est quoi qui t'a, au départ, poussé à t'inscrire au bac en histoire?
Moi, vous savez, j'ai toujours été très attiré là, par l'argent, la fortune. Donc, ça fait partie de mon processus pour devenir millionnaire. Hein. Non, plus sérieusement, en fait, moi, au cégep, je me suis inscrit dans un programme qui s'appelle Histoire des civilisations. Ouais, cégep de Lévis-Lauzon. Cégep de Lévis, maintenant. Exact. On peut parler normalement du nouveau slogan, mais c'est vraiment au contact de ce programme-là que j'ai découvert l'histoire comme discipline, puis un peu le champ de possibilités de faire justement de l'histoire de la mode, de faire de l'histoire des mentalités, l'histoire de la culture, puis tout ce qui va au-delà vraiment d'une histoire qui serait très politique, comme on fait plus au secondaire là, avec la Nouvelle-France, avec la Constitution, et ça, c'est toujours des choses qui m'ont moins intéressé un petit peu. Et c'est justement quand j'ai découvert qu'on pouvait faire l'histoire de n'importe quoi, je trouve qu'à ce moment-là, l'histoire devient un bel outil là, pour comprendre le monde dans lequel on vit, là, que ce soit justement les arts, la culture, la nourriture ou même la mode, là, dans le cas de mon sujet d'étude.
Puis justement, en parlant, c'est quoi qui t'a intéressé au départ à la mode, puis pourquoi particulièrement celle de la mode africaine, en fait?
La mode est venue avant, la mode africaine après, pour ce qui est de mon intérêt, donc je vais commencer par la mode, et c'est vraiment parce que, en fait, plus largement, l'habillement, les vêtements, c'est quelque chose qui est très, très intime, en fait, comme qui est très lié aux sociétés humaines, qui est très lié à notre identité, souvent, la manière dont on se présente aux autres, donc c'est un sujet, justement, qui, je trouve, touche à beaucoup d'autres sujets, à partir souvent d'un support physique, donc un vêtement, je fais beaucoup d'analyse d'objets, d'analyse de sources, mais ça touche des thématiques qui sont très très près de l'expérience humaine, alors même que c'est un sujet là, qui a été dévalorisé beaucoup là, à travers l'histoire, entre autres parce que c'était souvent vu comme un sujet féminin, donc appartenant au monde féminin, donc les premières historiennes du costume, historiennes de la mode, étaient vraiment n'étaient pas prises au sérieux par leurs collègues qui étaient par exemple en histoire économique du textile. Donc souvent l'histoire du textile était mobilisée pour parler de la révolution industrielle, de grands phénomènes comme ça. Et on opposait ces grands phénomènes économiques-là à des filles qui aiment coudre. Tu sais, c'est des termes très méprisants là, qui étaient utilisés par certains universitaires dans les années 70-80 à ce moment-là. Et ça s'est constitué comme discipline et moi j'y ai pris goût. Et pour ce qui est de la mode africaine, en fait, c'est l'Université Laval qui a apporté ça. Donc, pour mon premier cours de méthodologie où je devais faire un projet personnel, donc c'est le cours là, de recherche et de rédaction, j'étais jumelé avec Mme Muriel Gomez-Pérez, la professeure d'histoire africaine du gouvernement, qui a une certaine réputation pour sa rigueur et son exigence, là, d'où les rires et les regards d'effroi qu'on a lancé en ce moment. Mais personnellement, moi, c'est une professeure que j'apprécie énormément et qui m'a beaucoup apporté, et justement cet intérêt-là pour la mode africaine que je ne connaissais pas, en fait, même l'histoire africaine, on en parle très peu dans le bac, elle ne fait pas partie du cursus officiel, et moi, mon contact avec l'Afrique, c'était beaucoup par la musique, donc encore aujourd'hui, c'est principalement la musique africaine ou afro-descendante que j'écoute, Fela Kuti, tout ça, c'est des choses que j'aime beaucoup, beaucoup, et tout ce qui est les arts africains plus largement, et donc j'ai un petit peu jumelé mes intérêts au moment de faire ce travail-là, pour voir justement qu'est-ce qui se faisait du côté de l'Afrique en haute couture, dans le monde de la mode, puisqu'on en parle très peu, on commence un petit peu à en parler aujourd'hui, mais encore là, quand j'ai fait ce travail-là, en 2019, on en parlait presque pas, là, c'était pas très long.
Et t'as parlé justement de certains historiens qui ont un peu méprisé la discipline de l'histoire de la mode, mais toi, tu t'intéresses par... pareil, puis on voit aussi de plus en plus sur YouTube plein d'historiens de la mode. Pourquoi c'est important de s'intéresser à l'histoire de la mode?
Je crois que c'est important pour ce que ça révèle sur les humains qui les portent. En fait, c'est pas des vêtements qui existent en soi. Puis je crois que beaucoup de ce mépris-là ou de cette incompréhension-là vient d'une idée que ce serait une histoire qui serait purement esthétique, comme elle a déjà été faite. Déjà au 19e siècle, on avait des livres d'histoire du costume, on était beaucoup dans le détail, on était beaucoup dans la description. Mais aujourd'hui, ça va au-delà, on analyse beaucoup plus les mentalités qu'elles peuvent présenter justement l'histoire de la mode, parce que faire de l'histoire de la mode, c'est aussi de l'histoire du corps, c'est aussi de l'histoire des mentalités, c'est l'histoire du genre. Donc, on peut seulement voir le vêtement dans son contexte social, et c'est ce contexte-là qui est très intéressant. Par exemple, si on s'intéresse aux années 80, puis à toute cette vague de femmes carriéristes qui entrent sur le marché du travail, mais il y a le mouvement du power dressing dans la mode, donc les fameuses là, vestes avec les grosses épaulettes emblématiques des années 80. Donc, l'un des premiers ouvrages importants en fashion studies, Adorned in Dreams, s'intéressait justement à cette vague-là des années 80, puis à cette idée des conventions vestimentaires au travail pour les femmes dans un environnement professionnel. Donc, en fait, c'est le vêtement ou la mode, il y a une distinction entre les deux, mais sert de médium pour analyser des réseaux plus larges de pouvoir, entre autres, ou des mentalités. Voilà.
Mm-hmm. Puis maintenant que tu termines ton bac, c'est quoi que... Tu vas faire quoi après? Tu vas où?
Plus d'études, évidemment. Donc moi, je vais à l'Université Concordia pour ma maîtrise dans le programme d'études médiatiques, donc des Media Studies, parce que je souhaite justement voir comment les nouveaux médias, les nouveaux médiums permettent à des designers africains de gagner une visibilité sans passer par le grand réseau des capitales de la mode de Londres, Paris, Milan, qui est déjà très contrôlé, très centralisé, mais plutôt de présenter justement des alternatives à ce système-là qui pollue énormément, en plus de tous les abus qu'il y a sur les droits du travail, la pollution environnementale, le racisme, tout ce qui est associé aussi à la maigreur extrême, puis un peu le monde du mannequinat parisien, les abus qu'on connaît bien.
Merci.
Pour en revenir un peu à ton travail, tu nous avais expliqué que l'histoire de la mode, et en particulier évidemment l'histoire de la mode africaine, était très peu étudiée en histoire, assez boudée. Mais est-ce qu'il y avait des travaux qui ont un peu inspiré tes recherches ou inspiré un peu la direction que tu voulais prendre?
Oui, absolument. En fait, il y a des travaux extrêmement intéressants qui ont été faits sur la mode africaine, principalement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni et en France. Mais il faut vraiment être dans des ouvrages plus spécialisés, dans la mesure où la mode africaine va souvent être traitée à part dans des livres sur la mode africaine, par exemple, et pas dans les ouvrages plus généraux sur la mode. Je me souviens, quand je commençais ce travail-là, j'utilisais des sources très générales, incluant comme des dictionnaires internationaux de la mode, dictionnaires mondiaux de la mode. Et rapidement, ce qu'on constate, c'est que mondial, ça veut dire européen avec quatre japonais. Il y a vraiment une absence des designers africains, mais aussi latino-américains, du sud de l'Asie, aussi dans ces ouvrages-là. Mais une fois qu'on entre dans le créneau de la mode africaine, il y a d'excellents livres qui ont été publiés. C'est Victoria Rovine est probablement la plus grande spécialiste. C'est une chercheuse américaine basée à l'université de Durham, en Caroline du Nord. Mais il y a beaucoup de publications qui ont été portées par sont des catalogues d'exposition. Donc, comme on est dans le sujet du vêtement, on est dans le sujet de la matérialité, il y a beaucoup de grandes expositions qui ont été réalisées sur la mode africaine dans les dernières années. Mais encore une fois, le défi, c'est de en présentant ces expositions-là, en disant ça, c'est de la mode africaine, généralement, il n'y a pas le même regard ou la même attention aux détails qu'on a lorsqu'on présente, par exemple, une exposition sur Christian Dior, comme il y avait au Musée McCord, une exposition sur Coco Chanel. Donc, c'est comme si, pour le moment, il n'y avait pas de grande exposition rétrospective où les designers africains ont accès au même statut que l'ont un petit peu les grands noms là, de la haute couture européenne.
On disait que ton travail se portait principalement sur la mode en Afrique noire entre les années 1980 et 2000. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi cette spécificité, pourquoi parler exactement de cette temporalité et quelle région à peu près de l'Afrique est-ce que tu voudrais surtout te concentrer?
Mais évidemment, l'Afrique, c'est énorme. C'est un gigantesque continent. Puis d'ailleurs, les cartes qu'on voit souvent en tête avec la projection de Mercator ne donnent pas une bonne idée de la véritable grandeur de ce continent-là. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de la mode, mais j'ai quand même choisi le terme très vaste d'Afrique noire, puisque souvent, dans la presse internationale, c'est comme ça que les designers vont être reçus. Donc que quelqu'un vienne de l'Angola, qu'il vienne du Rwanda ou qu'il vienne de l'Éthiopie, même si c'est des aires culturelles qui sont très très différentes, souvent on va les recevoir sous le terme de mode africaine. Par opposition, par exemple, à certains designers d'Afrique du Nord, comme Azzedine Alaïa, ou même, moi j'ai déjà vu un livre qui disait que le premier designer africain de renommée internationale, c'était Yves Saint-Laurent. Puisque, bon, évidemment, il est né en Algérie, mais bon, c'était un pied noir, il était citoyen français, donc la réalité n'était pas du tout la même. Même chose si on regarde du côté de l'Afrique du Sud. Disons qu'il y a beaucoup de personnalités africanaires qui étaient déjà implantées dans les réseaux européens de mode, beaucoup de mannequins, Candice Swanepoel et compagnie. Mais il y avait une division avec la mode sud-africaine noire, où là, il y avait ces icônes comme Nelson Mandela ou Myriam Makeba, donc des icônes de style plutôt prisées par les populations noires dans ce pays-là. Il y avait vraiment comme une rupture entre les deux. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi là, le terme d'Afrique noire, puisque c'est ces designers-là qui sont notoirement absents lorsqu'on crée des panthéons là, de designers, même si ça aussi c'est un problème, il faut arrêter de vénérer les figures de grands créateurs, puisque souvent c'est toute une pléthore de gens qui travaillent pour fabriquer ces vêtements-là, il n'y a pas seulement la personne qui conçoit. Et la délimitation temporelle, en fait, c'est parce que tout simplement c'est dans les années 80, justement, qu'on remarque une présence dans la presse internationale de designers africains. Puis une reconnaissance, on pourrait dire, globale, là, qui va au-delà d'une scène qui serait exclusivement locale. Donc, c'est vraiment des figures pionnières, là, comme Chris Sédou au Mali, par exemple, dans les années 80, qui est justement quelqu'un qui va avoir travaillé à Paris, qui va avoir été proche des grands designers, des grands noms. Il me semble que c'est Saint-Laurent, mais là, le travail remonte à un petit bout, donc je pourrais pas confirmer, mais c'est un peu comme si, en ramenant ce prestige-là que lui avait conféré Paris dans les années 80, il a ensuite pu travailler à partir du Mali et avoir une porte internationale. Mais encore aujourd'hui, c'est un type de système qu'on voit encore, là, qui commence seulement à changer, mais c'est encore, disons, une procédure standard là, d'aller en Europe pour avoir un certain cachet là, comme couturier.
T'en as jeté déjà deux mots par rapport au regard européen sur les créations africaines. J'imagine que c'est le regard va évoluer avec le temps, évidemment. Est-ce que tu pourrais nous parler d'où vient l'intérêt européen pour l'Afrique?
Il évolue peut-être pas assez vite, malheureusement, un petit peu quand même, mais ce qu'il faut dire, c'est que le regard européen sur l'Afrique dans la mode, on va dire comme ça, mais aussi dans les arts en général, c'est lié à la colonisation. Et vraiment, aux expositions universelles là, qu'on avait au début du 20e siècle, dont l'exposition des arts décoratifs en 25, la grande exposition coloniale à Paris en 1931. Et dans ces événements-là, l'Afrique était vraiment présentée un peu comme un trophée de la France. Donc, il y avait déjà premièrement, il y avait carrément des gens qui étaient exposés dans des zoos, en fait, ce qu'il y avait des zoos humains ou des jardins d'acclimation. On pouvait voir donc des gens de Tahiti, des gens du Mali, des gens de plusieurs cultures à travers le monde. Donc, il y a ça qui est assez horrible, juste d'y penser, mais il y a aussi cette appropriation-là de l'art local et de s'en inspirer pour faire quelque chose de nouveau. Donc, dans ces expositions-là, il s'est développé un style qu'on appelle colonial moderne, qui est de puiser un peu dans ces cultures-là pour en faire quelque chose. Là. Puis là, évidemment, c'est toute une terminologie raciste, mais on disait... On parlait d'évolution, même d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent le terme d'art premier ou d'art primitif pour parler d'art africain. Comme si on ne donnait pas un véritable statut d'art, mais qu'on va plutôt considérer ces objets-là pour l'influence qu'ils ont eue sur des artistes européens. Par exemple, on va parler des masques africains en disant ça a inspiré Picasso, par exemple, plutôt que de parler des masques entre eux. Puis dans la mode, c'est un petit peu le même souci. Yves Saint-Laurent, justement, est souvent acclamé pour sa fameuse collection africaine là, qu'il a gardée dans les années 70. C'est un petit peu épouvantable, là. C'est très, très stéréotypé, là. C'est vraiment du raffia, puis quelque chose de très kitsch, en fait, d'assez loin de ce qui se fait réellement comme culture vestimentaire en Afrique. Et cette idée-là de voir le reste du monde comme un repère d'inspiration pour un génie européen, c'est quelque chose qui va se maintenir très longtemps. Là, même dans les années 90, John Galliano, quand il était chez Dior, avait des propos similaires. Il disait que lui, il allait une semaine en Chine et il s'inspirait de tout ce qu'il voyait. Et son but n'était pas tant de comprendre la société chinoise que d'en prendre des éléments et de la réinventer dans sa tête. Et au final, il y a cette idée-là, en fait, qui règne dans la mentalité coloniale européenne de voir le reste du monde comme une source ou comme un puits de ressources, mais aussi un puits d'inspiration. Donc, l'imagination est un petit peu la ressource du designer, là, au-delà des textiles. Et encore là, c'est beaucoup aussi de textiles, puis beaucoup de matières premières. Si on pense aux bijoux, mais l'or, les diamants, ça provient du continent africain également. Donc, il y a une appropriation matérielle, mais aussi symbolique qui a été faite par les designers européens. Et ce n'est qu'aujourd'hui là, que le regard commence à être relativisé et où on considère la production africaine d'égal à égal, parce qu'il y a vraiment une reconnaissance. Puis je crois aussi qu'il y a un changement de paradigme où on reconnaît davantage le travail matériel. En fait, avant, on utilisait beaucoup le terme artisanat pour dévaloriser certaines formes de production artistique. On disait donc l'art, le grand art européen, l'artisanat de certains peuples. Mais aujourd'hui, cette idée-là d'art africain, de production africaine qui vaut au même titre que n'importe quelle production européenne. Puis ça permet là, donc un échange justement qui n'est pas fait sur des bases là, d'inégalité. Là. Donc c'est une lente amélioration. Puis ça passe beaucoup justement par des designers ou des créateurs, des créatrices qui ont leur voix sur la scène internationale sans forcément s'expatrier à Londres ou à Paris. Donc je pense à Tebe Magougou, entre autres, qui est basé à Johannesburg, qui est l'un des plus grands couturiers en ce moment, les plus en vue, et qui a un style donc international, très contemporain, auquel beaucoup de gens peuvent aspirer, mais qui reste aussi très sud-africain. Dans l'histoire qu'il met dans ses vêtements, c'est un designer qui a un rapport à l'histoire, aux archives photographiques qui est très intéressant. Donc ça permet un peu de partager sur le monde l'histoire sud-africaine plutôt que l'histoire sud-africaine telle qu'elle serait lue par un designer français, telle qu'elle serait lue par un designer italien par exemple. Donc il y a ça qui est en train de changer, mais c'est très contemporain là, puis on espère que ça va poursuivre dans cette direction-là dans les prochaines années.
Justement, là, on parle du regard que les Européens ont sur le continent africain, un peu cette hiérarchie dans les arts, mais comment que les créateurs, hiérarchie dans les arts, comme les Européens le voient, là, mais justement, comment les créateurs et les créatrices africaines s'adaptent à ce regard européen-là qui est sur eux?
C'est tout le défi, en fait, parce que, bon, tant qu'on parle de mode international, de clientèle internationale, dans les faits, c'est plutôt clientèle occidentale. Et encore là, aujourd'hui, pour ce qui est de la mode du luxe et de la très haute couture, c'est surtout un marché oriental. Donc, c'est surtout en Chine et au Japon qui est rendu le principal marché de ces produits-là. Mais dans les années 80, c'était encore largement là, les États-Unis, la France, l'Allemagne et compagnie. Donc, les designers africains se sont un petit peu retrouvés aux prises avec la nécessité de présenter quelque chose d'authentique, oui, mais quelque chose qui va tout de même rejoindre cet imaginaire européen-là, puisque c'est le public cible, en fait, c'est les gens auxquels on veut vendre. Et j'ai évoqué rapidement donc, le nom de Chris Sedou tout à l'heure, mais lui, justement, ce qui va le rendre célèbre, c'est le fait d'utiliser des matériaux traditionnels dans la culture du Mali, donc ce qu'on appelle le bogolan, qui est un tissu sacré, donc la grande toile de coton teinte avec un mélange de boue et d'écorce qui donne des couleurs, là, des dégradés là, de brun et de noir, et c'est avec des motifs géométriques, un très beau tissu, puis qui a une histoire très riche. En fait, Victoria Robin a écrit un immense livre seulement sur ce tissu-là. Mais c'est d'où ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ce tissu et il en a fait des vêtements typiques des années 80, donc du power dressing justement, donc des tailleurs à épaules fortes, des jupes crayons, donc des, tous des symboles de la femme au, des femmes sur le marché du travail, ce qui est assez intéressant puisque justement on prend un tissu qui pourrait être associé à un monde plus traditionnel. D'ailleurs, ça fait un grand scandale au sein de son pays, ces vêtements-là, puisque le bogolan, c'est un tissu qu'on passe son modèle de fabrication est beaucoup associé à la terre, aux énergies vitales de la terre. Il y a des propriétés régénératives, et c'est entre autres un tissu là, dans lequel on faisait des peignes qu'on donnait aux jeunes filles qui étaient excisées pour faciliter la guérison. Donc, vous comprenez, le fait de prendre ce tissu-là pour en faire des vêtements de femmes au travail, il y a comme tout un double sens, si on veut, une réappropriation du sens original qui n'a pas passé du tout dans certains milieux plus conservateurs, plus religieux, attachés à ce milieu-là. Mais comme la mode carbure au scandale, là, dans le cas de Chris Hedoux, ça l'a bien avantagé là, pour se faire une signature assez rapidement là, dans le monde.
T'en as parlé un petit peu de Chris Hedoux qui a pris un tissu qui est utilisé depuis vraiment longtemps dans sa culture, mis quelque chose de moderne avec ça. Comment que les autres créateurs, créatrices ont fait ce mélange de tradition et de modernité?
Oui, ben, je dois adresser un petit peu la question aussi parce que c'est vrai que le terme de modernité que j'ai moi-même utilisé par endroit dans mon travail, puis c'est quelque chose peut-être qui serait à relire aujourd'hui, mais la question de la modernité est complexe puisque c'est intimement lié aux vêtements puis à la mode, et c'est justement ce qui a été utilisé à l'époque coloniale pour distinguer un peu l'Europe du reste du monde. On disait les Européens ont la mode, donc ils sont modernes. Par opposition, les autres peuples ont des costumes ou ils ont des parures. Donc l'idée de quelque chose qui est figé dans le temps, alors que la mode européenne, elle serait changeante. Et bon, on sait aujourd'hui en anthropologie que ce n'est pas vrai. En fait, toutes les cultures ont des changements vestimentaires, même si ça suit pas forcément le rythme là, des saisons printemps, été, automne, hiver, comme on le fait ici depuis la moitié du 19e siècle. Mais il y a vraiment un traitement différencié qui était fait entre le moderne et ce qui ne l'est pas. Puis aujourd'hui, on cherche à défaire là, cette distinction-là entre modernité et non-modernité, puisque ça justifie là, tous les abus qu'on connaît dans l'histoire coloniale. Mais reste que justement les créateurs et les créatrices d'aujourd'hui vont puiser tout de même dans une tradition qui est forte, dans un patrimoine ou même dans un matrimoine, puisque souvent c'est des traditions textiles, des traditions de bijoux qui s'échangent de femme en femme. Et on en fait des vêtements, disons qu'on plutôt cosmopolites, je crois qu'on pourrait dire ça, puisque mine de rien, c'est beaucoup concentré dans les villes. Ces industries créatives-là, et il y a vraiment l'idée de prendre des influences d'un petit peu partout. Donc, Amaka Osakwe, qui est une designer du Nigeria, elle va s'inspirer autant de la vie à Lagos, du nightlife de Lagos, que de peintres européens comme Matisse, par exemple, Citrombly, qui était un Américain. Donc, des influences qui sont multiples, et de défaire justement cette dichotomie de on prend quelque chose de traditionnel, on en fait quelque chose de plus moderne. C'est vraiment plutôt dans la pluralité, puis dans les combinaisons d'influences qu'on voit cela. Mais je vous dirais que la force, disons l'une des grandes forces du continent africain, est vraiment dans les traditions artistiques et matérielles, donc dans l'artisanat, dans certaines variétés de tissus, dans les teintures, donc toutes les teintures indigo là, de la côte ouest. Donc, vraiment, pour quelqu'un qui s'intéresse aux matériaux, aux textiles, l'Afrique est un paradis, là, en ce sens-là, un peu comme l'Italie aussi, pour les gens qui aiment ce domaine-là. Puis c'est dans les coupes où là, ça peut devenir plus éclectique. Il y a une influence aussi marquée du streetwear qu'on voit plus dans les dernières années, là, propulsée justement par des stars afro-américaines comme Virgil Abloh, Kanye West et compagnie. Eh bien, là, il y a aussi un streetwear africain qui gagne en popularité, puis avec des designers comme Célie Rabicané, aussi qui a fait des vêtements pour Beyoncé. Donc, il y a un échange outre-Atlantique aussi qui se fait entre des créateurs, des créatrices africains et africaines et des vedettes là, de la diaspora.
par rapport à l'industrie de la mode en Afrique actuelle, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment l'industrie s'est développée?
L'industrie, bon, c'est toujours une question qui est complexe, puisque, bon, comme on dit, la colonisation est rarement tendre sur les industries. Il faut dire que dans certaines régions, notamment le Nigeria, est vraiment devenu au sein de l'Empire britannique, le Nigeria a vraiment été installé en monoculture de coton. Donc, c'est ce qu'on faisait pousser là-bas. Mais, disons, tout en produisant la plante, on décourageait l'industrialisation pour ne pas qu'il y ait de production textile locale, puisque le textile, on le faisait en Angleterre, dans les grandes manufactures. On préférait avoir seulement des matières premières. Donc, ça va causer des gros soucis là, au niveau de l'industrialisation de nombreux pays africains. Et souvent, ça va venir plutôt après les indépendances, mais souvent à partir de capitaux européens. Donc, on pourrait parler de néocolonialisme. Bon, c'est un terme qui a des implications politiques, mais que je trouve décrit bien la réalité, puisque souvent, c'est des capitaux européens qui vont créer des usines, des industries en territoire africain, mais qui vont assez peu bénéficier aux populations locales, encore une fois, au Nigeria, mais il y a ce qu'on appelait des joint, des mixed ventures, je crois, ou quelque chose comme ça, et qui étaient en fait des initiatives de partenariat, donc on disait une part de capitaux britanniques, par exemple, une part de capitaux nigériens, et au départ, c'était presque exclusivement des compagnies britanniques. Éventuellement, une loi a été adoptée pour obliger l'emploi de 40% de main-d'œuvre nigériane, mais à ce moment-là, on engageait surtout dans les postes, disons, plus techniques, les postes plus ouvriers, alors que les postes décisionnels et les profits demeuraient européens. Et donc, c'est resté longtemps les Européens qui bénéficiaient de ce marché-là. Et aujourd'hui, ce sont beaucoup les entrepreneurs chinois ou indiens là, qui s'impliquent dans l'industrie textile en Afrique. Puis, on voit des développements en Éthiopie, notamment là, de grands parcs industriels qui n'ont rien envie là, à ceux du Bangladesh ou de ces espèces de temples de la fast fashion où les conditions de travail sont toujours moins respectées, où les salaires sont toujours plus bas. Donc ça, c'est un peu vraiment quand on parle de l'industrie, ou plutôt des effets d'une industrie de la mode globalisée sur le territoire africain. Mais il y a, en parallèle à ça, il y a aussi le retour justement de la force d'une mode ou d'artisanat vestimentaire. Si vous allez en Afrique, il y a toujours des marchés où vous pouvez faire une robe ou un costume sur place. Donc, il y a vraiment encore cette relation aux vêtements, une relation avec l'artisan, avec l'artisane qu'on perd beaucoup. Ici, je trouve la moindre d'avoir un tailleur, si vous en avez les moyens. En tant qu'étudiant en histoire, c'est plus rare. Mais il y a justement un plus grand respect, je crois, du travail manuel et de la fabrication de l'objet où on sait qu'il fabrique, on sait avec quel tissu, donc c'est moins dépersonnalisé là, comme la fast fashion aujourd'hui. Donc il y a ces deux systèmes-là qui cohabitent.
Est-ce que le développement de cette industrie-là a été bénéfique pour les populations africaines?
Ben, comme je l'ai dit, dans le cas des industries, pas vraiment, surtout que ça dépend, mais comme dans le cas des grands parcs industriels comme ceux de l'Éthiopie, au final, les gens ne portent pas les vêtements qu'ils produisent, puisque les salaires ne sont pas assez élevés. Donc souvent, ils vont avoir... c'est beaucoup des vêtements de seconde main qui sont recyclés, qui sont envoyés là, en Afrique de l'Est. Là, il y a un terme en Zambie, ils l'appellent la salola. Je crois qu'il y avait une anthropologue qui avait traduit ça par les vêtements de blanc mort, là, c'est le terme qu'ils disent pour... vraiment des vêtements de seconde main qui, des fois, ne sont même plus utilisables. Ces niveaux-là, donc, il y a plusieurs choses. Il y a, entre autres, champs, par rapport à la salola, tout un bricolage qui se fait... On parle d'upcycling ici, mais l'upcycling, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps en Afrique. Donc, une grande créativité qui permet là, de créer des vêtements absolument hallucinants à partir de ça. Et il y a aussi des pays comme le Rwanda là, qui ont banni ces importations-là de vêtements de seconde main dans un effort pour développer une industrie locale, mais qui se fait au bénéfice des populations locales et se fait pas dans une optique de capitaux étrangers. Donc, je dirais que ça dépend vraiment beaucoup du pays en question, du type de législation qui suit ces initiatives-là. Mais donc, quand on parle d'une manufacture du textile, là, généralement, ça bénéficie assez peu à la population. Là, certains vont dire que ça crée des emplois et tout ça, mais c'est rarement des emplois de grande qualité. Mais ce qui est chouette, disons, c'est plutôt les créateurs, les créatrices d'origine africaine qui vont créer des écoles de design, par exemple, dans leur pays. Et là, ça ouvre des portes à des postes qui sont beaucoup plus enviables. Genre des gens qui peuvent designer même les vêtements, qui peuvent entreprendre, ou qui peuvent être stylistes et avoir une certaine agentivité plutôt que d'être là, un peu des petites mains. Là. Donc, il y a ça qui est plutôt chouette.
Maintenant, on a parlé de la mode, en fait, du vêtement, de l'industrie en Afrique. J'aimerais vraiment en apprendre plus sur la haute couture. Comment ça s'est développé, la haute couture purement africaine?
Oui, je vais commencer par une petite précision, juste pour pas qu'on se fasse poursuivre en diffamation. Donc, malheureusement, haute couture, ça peu de gens le savent, mais haute couture, c'est une appellation protégée.
Comme du champagne.
Exact, comme le fameux champagne de la région de Champagne. Eh bien, donc en France, il y a ce qu'on appelle la chambre syndicale de la haute couture. Qui est un petit peu là, un conseil. Imaginez un petit peu l'Académie française là, des couturiers. C'est un organisme là, qui régule ce qui est et ce qui n'est pas de la haute couture. Et donc, bon, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la grandeur de ce qui serait européen et la petitesse de ce qui ne l'est pas, on la retrouve un peu dans cette application-là là, de haute couture, bien qu'il y ait certains designers qui ne soient pas d'origine européenne qui ont accédé à ce statut-là. Azzedine Alaïa, par exemple, qui est tunisien, qui est vraiment un des grands noms de la haute couture. Haute couture. Mais il y a quand même des vêtements sur mesure, des vêtements de luxe. Donc ensuite, c'est de trouver comment l'appeler, ce terme. On pourrait dire couture, tout simplement. Bien, elle s'est développée par les gens, en fait. Là, organiquement, c'est beaucoup... Surtout les pionniers, ce sont beaucoup des gens qui sont autodidactes. Oumoussi, par exemple, au Sénégal, qui est une grande couturière, elle-même lancé des écoles à Dakar, elle a même lancé un festival, en fait, le Carnaval de Dakar, pour que ses étudiantes puissent créer des costumes à l'occasion de ce festival-là. Et ça mousse le tourisme, ça mousse aussi les productions théâtrales et tout ça. Donc, elle est très impliquée, mais elle-même, et autodidacte, et souvent c'est des gens qui apprennent par eux-mêmes ou apprennent par leur réseau familial. Justement, la couture se transmet encore une fois généralement de femme en femme, un peu comme quand il y avait les cercles de fermières au Québec. Donc le rapport aux vêtements ne s'est pas perdu partout, mais on voit justement l'émergence d'écoles de mode portées par ces designers-là. Oswald Boateng, qui lui est un des grands tailleurs britanniques là, dans le monde en ce moment, qui est d'origine ghanéenne, a justement ouvert des écoles de couture au Ghana, là, donc dans un... Donc il y a une volonté là, de partage de l'expertise qui est intéressant. Sinon, je vais en reparler de TB Mabougou, j'en parle beaucoup, mais c'est vraiment là, la superstar de la mode africaine en ce moment. Et lui en a fait un peu le point de départ, si on veut, de son originalité, c'est qu'il l'avait appliqué à la prestigieuse université Central St. Martin's, qui est le grand collège de mode à Londres, d'où ont gradué John Galliano, Alexander McQueen et compagnie. Et il a été refusé. Et de ce refus fait qu'il a eu besoin de rester à Johannesburg plutôt que d'aller à Londres et de s'inspirer de ce qu'il avait autour de lui, en fait, de la culture locale. Et ça donne une saveur, une esthétique et un message à ses créations qui sont extrêmement différentes du style Central St. Martin, qui évidemment est différent selon les différents créateurs, mais reste un peu dans cette élite européenne. Ça coûte extrêmement cher aller à Central St. Martin's. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est une école qui est très, très stricte aussi dans le processus de sélection. Donc, le fait d'être resté en Afrique du Sud, d'être resté à Johannesburg, a permis justement un caractère qui est différent, une mode qui n'est pas forcément celle qui est en affiliation avec un Christian Dior, avec un Yves Saint-Laurent, qui n'est pas forcément une mode de podium, mais qui va souvent mobiliser d'autres médiums que le défilé. Oui, il y a des défilés, mais aussi des courts-métrages, des films, mais surtout qui a une présence qui s'inscrit même dans la vidéo promotionnelle, qui s'inscrit en Afrique du Sud et qui montre une certaine fierté justement de l'identité sud-africaine, de la vie sud-africaine, et pas seulement comme une source d'inspiration. Donc, j'ai l'impression que, en ce sens-là, les artisans de la mode africaine sont beaucoup plus ancrés dans leur milieu, là où des fois la mode européenne cherche un petit peu à être toujours dans l'innovation pour l'innovation, dans la fantaisie pure. C'est quelque chose qu'on retrouve moins là, sur le continent.
Et est-ce qu'on doit ce développement-là uniquement aux entreprises européennes ou c'est d'autres choses?
C'est sûr que dans le monde globalité ou le monde globalisé où on vit, il y a toujours des influences qui se croisent et se recroisent. Assurément, on ne peut pas dire que c'est exclusivement dû aux entreprises européennes, puisque tout le volet créatif, tous les créateurs, créatrices dont on parle aujourd'hui, surtout qu'ils sont souvent autodidactes et qu'ils s'inscrivent souvent dans des modes de création qui sont africains à la base, donc il y aurait une possibilité de se distancier de l'Occident, mais qui n'est pas forcément souhaitable, puisque comme on est dans un monde globalisé, bien, les gens en Afrique écoutent les mêmes séries Netflix, donc il y a vraiment une culture qui est partagée de plus en plus. Et je vais donner un exemple, qui est l'exemple de la compagnie Blisco. Donc souvent, quand on pense au tissu africain, on a une image très précise en tête, qui est celle des tissus tout colorés avec des motifs, donc un tissu qu'on appelle le wax, ou le wax hollandais, donc qui est vraiment qui existe en des milliers de couleurs, milliers de motifs. Et ça, c'est un tissu qui est produit par une compagnie des Pays-Bas, justement, Blisco. Et c'est une mutation à la base des batiks indonésiens. Donc, il y a toute une histoire assez intéressante avec ça, mais c'est qu'à la base, justement, les colons hollandais ont industrialisé la production du batik, qui était une production artisanale, artistique très importante en Indonésie. On en fait des copies, on tentait de les vendre aux Indonésiens qui n'en voulaient pas, puis c'est un petit peu des copies cheap de notre culture, donc on n'en veut pas, merci quand même. Ensuite, ils les ont vendus aux Européens, où, comme à chaque fois, ça a connu un succès monstre pendant un mois ou deux. Ensuite, on est passé à l'autre mode, ça les intéressait plus. Mais en Afrique de l'Ouest, il y a eu tout de suite une appréciation pour ce tissu-là, étant donné qu'il y avait déjà dans cette région-là un patrimoine textile très très important, au point où souvent là on pouvait dans les familles se léguer certaines pièces de tissu, et où dans les certains rois de cette région là dans les trésors il y avait des étoffes de textile très élaborées avec beaucoup de motifs, avec beaucoup de couleurs. Donc ça a été un succès tout de suite et une relation qui s'est tout de suite installée là, avec les marchands dans cette région là d'ailleurs. Les premières femmes millionnaires africaines, qu'on appelait les Nana Benz, vont justement émerger dans ce contexte-là. Donc, Nana Benz, puisque comme grand-maman avec Mercedes-Benz, si je vous fais un petit peu la traduction. Donc, des marchandes extrêmement riches qui, avec leur réseau de clientélisme puis leurs connaissances, pouvaient dire à Blisco quels allaient être les motifs qui allaient se vendre plus, qu'est-ce qui pourrait changer dans les couleurs. Donc, ce qui était à la base un produit... un produit indonésien est devenu un produit hybride afro-hollandais, mais encore au bénéfice, oui, d'une compagnie hollandaise, mais aussi de marchandes en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a vraiment tout un jeu d'influence. C'est pour ça que des fois, oui, la notion d'appropriation culturelle est bien réelle, puis on le voit, surtout quand on voit des collections, justement, comme la collection africaine d'Yves Saint-Laurent. Mais d'un autre côté, des fois, les cartes sont brouillées parce qu'un produit culturel peut tellement se transformer et puis s'exporter qu'il peut être difficile, des fois, de définir clairement ce qui est ce qui n'est pas. Tu sais, ce qu'on veut dire, est-ce qu'un t-shirt est un vêtement occidental? Tu sais, beaucoup de gens pourraient dire oui, ça l'est par excellence, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est porté partout dans le monde aujourd'hui, avec beaucoup de styles locaux, beaucoup de variantes régionales. Même chose avec les maillots de joueurs de football, par exemple, qui sont extrêmement populaires en Amérique latine, même s'ils sont souvent produits en Europe. Donc, je crois que la lecture qui est faite d'événements dépend des contextes. Puis, faudrait pas croire que les gens sont passifs. Des fois, il y a beaucoup d'anthropologues, plus de vieilles gardes, qui parlaient de destruction des cultures à cause de la globalisation de la mode, l'idée que tout le monde veut porter des t-shirts et des jeans, mais il y a quand même une adaptation qui est faite. Souvent, les gens choisissent ou non d'adopter certains vêtements, certains codes. Il y a une agentivité des gens qui est présente en Afrique comme il est présente partout dans le monde. Donc, je crois pas que la mode est vraiment un bulldozer. En fait, si l'industrie de la mode est un bulldozer qui détruit la planète et qui détruit les cultures, mais le fait de s'habiller ou de suivre certains styles, par contre, là, non, je crois pas que c'est une menace. Je pense que j'ai peut-être déraillé un petit peu la question.
Non, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant et très important aussi de lever ce point-là. Mais ouais, c'est aucunement une faute que t'aies digressé comme ça. Là. C'était très pertinent du début à la fin. Mais maintenant, je dois te demander, on trouve souvent les mêmes couturiers et couturières dans les grands événements de couture, ben, surtout en Europe, en Occident. Est-ce qu'il y a des événements similaires en Afrique? Est-ce que c'est les mêmes grands noms qui reviennent ou non?
Comme à chaque fois, il y a plusieurs échelles, si on veut. Donc, il va y avoir des semaines. Maintenant, il y a des semaines de la mode à Kinshasa, par exemple. Donc, des semaines de la mode au Congo. Il y a des semaines de la mode au Kenya. Évidemment, les plus importantes sont celles dans soit les pays ou avec l'industrie la plus conséquente. C'est pour ça que les semaines de la mode en général du Nigeria, celles en Afrique du Sud, vont être très importantes. Et il existe un événement là, qui est un peu unique en son genre, donc c'est le Festival international de la mode africaine, ou le FIMA, qui s'est tenu pour la première fois en 1998 dans le désert du Tigilit, donc au Niger. Et c'était un couturier, justement, là, originaire du Niger, Al-Fadi, qui avait fait cette initiative-là dans une idée de rassembler plusieurs créateurs et créatrices là, du continent et aussi des designers européens pour permettre un échange, justement. Et maintenant, ça fait... Donc, ça se tient aux 2 ans, donc il doit peut-être avoir une douzaine d'éditions là, depuis, avec la COVID. Peut-être que ça ne s'est pas tenu, mais ça s'est déplacé un petit peu partout. Là. Il y en a eu une édition au Maroc... Et ça permet vraiment des échanges intéressants. Et ce qu'on constate suite à ça, c'est qu'il y a vraiment un style africain qui se développe en prenant des influences d'un petit peu partout. Donc, des gens qui ne viennent pas du Mali, qui vont quand même porter des choses avec du bogolan, ou le kente, qui est le tissu emblématique du Ghana, mais qu'on retrouve dans des designs qui ne sont pas ghanéens. Donc, on emprunte les créateurs africains et les gens qui portent l'événement aussi créent un petit peu un style pan-africain qui est un petit peu porté par la diaspora aussi aux États-Unis et en Europe, entre autres. Donc, beaucoup d'icônes aussi de la chanson Fatoumata Diawara, par exemple, qui est originaire du Mali, qui peut porter une veste de cuir italienne avec un maquillage peul typique du Mali et un foulard sur la tête. Donc, il y a vraiment un style, en fait un style personnel, mais un mélange des styles qui est permis par ces événements-là. Et c'est bien qu'ils se tiennent, puisque justement, la semaine de la mode de Paris, la semaine de la mode de Milan, ces événements qui sont très exclusifs, qui sont assez fermés, disons, pour certaines clientèles et compagnies. Donc, le fait que ces propres festivals-là s'organisent sur le continent, eh bien, ça permet un peu... je peux faire un parallèle un peu avec la conférence des non-alignés là, qu'il y avait eu pendant la guerre froide, mais ça permet un petit peu de faire son propre truc, ou de pas attendre d'avoir la permission de la chambre syndicale de la haute couture pour faire de la mode, pour faire des événements, et ça fait un discours qui est assez intéressant, parce que je sens que ça permet d'être à l'abri, peut-être, de certaines tendances, de certaines injonctions... que ce soit dans l'allure des mannequins, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que Leora Farber, qui est une chercheuse sud-africaine que je cite dans mon article, a constaté, mais c'est que En Afrique du Sud, traditionnellement, il y avait une conception de la beauté féminine qui était généralement de femmes avec plus de courbes, femmes plus rondes. Et avec l'avènement de la presse internationale, il y avait la popularité de Naomi Campbell, donc qui est la supermodèle britannique là, qui on doit être une taille 0 ou double 0. Donc ça a changé un peu les perceptions de ce qui était considéré beau ou non. Et il y a comme une tension justement entre cette influence exogène-là et les conceptions locales de la beauté. Donc, le fait d'avoir des semaines de la mode ou des événements qui se placent différemment de du paradigme européen, bien, ça permet par exemple d'avoir plus de mannequins de différentes tailles, de choses comme ça, même si on peut pas nier que l'Occident a quand même un rayonnement assez fort là, à ce niveau-là.
De quelle manière est-ce que la mode africaine, elle évolue par rapport à la mode occidentale, notamment pour le fast fashion?
Bien, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, il y a cette idée du sur-mesure, de l'objet unique ou de produire quand on a besoin. Donc, c'est cette idée-là de pas nécessairement créer sa propre demande ou créer des vêtements qu'on va jeter parce qu'on en a trop fait, mais beaucoup plus de créer pour une personne en particulier. Premièrement, c'est génial parce que en fast fashion, les vêtements font à personne. Je sais pas vous, là, mais un small ou un medium du Simon, c'est jamais, ça ne convient jamais. Donc, le fait d'avoir des vêtements faits pour soi, on se sent toujours beaucoup mieux. Et puis, il y a aussi toute la notion de ressources qui est différente. Donc, il y a beaucoup de recyclage. L'un des grands designers parisiens en ce moment, c'est Lamine Kouyaté, qui lui est originaire, là, il me semble du Mali. Laissez-moi voir, je vais pas vous mentir. Il fait produire ses tissus au Mali, exact, mais il y a la région aussi. Pour lui, ça a toujours été naturel de coudre, recoudre des vêtements ensemble, de recycler, de faire des nouvelles créations. Et Choulibet, qui est sa marque, a longtemps fait des collections où c'était des vêtements issus de recyclage et où toutes les marques de couture étaient visibles avec du fil rouge. Comme ça, on pouvait voir en fait les altérations qui avaient été faites sur les vêtements. On pouvait voir un peu la structure de comment un nouveau vêtement a été formé à partir de textiles récupérés. Donc, c'est un peu un développement esthétique sur cette notion-là de upcycling qui était présente là, avant même qu'on en parle ici en Occident. Et il y a vraiment cette idée de... Parce que la fast fashion, c'est un petit peu une anomalie, là, c'est un petit peu un concentré de ce qu'il y a de pire là, dans la modernité occidentale que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais la fast fashion, exact. Se produit elle-même ou produit sans cesse et ensuite on essaie d'écouler les stocks, ça marche pas, tant pis, on jette, on recommence. Et, en fait, il y a peu de lien entre le vêtement lui-même et les gens qui vont les porter. Les vêtements de fast fashion sont pas faits pour être portés longtemps. Deux lavages, du Zara, c'est fini. Puis, on est vraiment dans l'idée d'écouler un stock, dans l'idée de vendre, dans l'idée de produire. Je crois que puisqu'il y a la raison pour laquelle j'ai choisi d'étudier la mode africaine, je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ces systèmes-là, c'est l'idée d'avoir un style à l'échelle humaine, de créer des vêtements quand on en a besoin, parce qu'on veut les porter, puis qu'on peut les porter longtemps. Puis oui, c'est sûr que ça va coûter un petit peu plus cher au final, mais ça fait une pièce qui est unique, puis ça rejoint justement la conception qui était présente à la base dans la haute couture. Je me souviens qu'Alexander McQueen, donc un grand designer là, britannique d'origine écossaise, qui disait que son objectif en tant que créateur, c'était de faire des objets qu'on pouvait léguer en héritage. Donc vraiment créer des objets d'une grande beauté, puis on est très très loin, donc ce qui est aujourd'hui la maison Alexander McQueen après son décès, c'est-à-dire des sneakers là, trop grands à 2000 euros, donc on est vraiment ailleurs, et aujourd'hui, on est plutôt dans une idée de la marque, on est plutôt dans une idée du symbole de richesse plutôt que dans l'objet en soi, mais souvent ça commence comme ça. Christian Louboutin, c'est un très grand créateur. C'est quelqu'un qui était très près de ses clientes, qui faisait peu de commandes, qui faisait peu d'objets, parce qu'il avait vraiment l'idée que, pour lui, le luxe, ça devait être quelque chose qui était adapté à chaque personne, qui était unique et qui avait beaucoup de soins, qui allait dans chaque paire de chaussures. Aujourd'hui, on est dans la production de masse, mais le marketing fait en sorte qu'on peut mettre des taxes, des coûts astronomiques à ces projets-là. Mais je veux dire, pour le prix qu'on paye pour un sac Chanel, vous pouvez avoir des sacs beaucoup plus jolis, beaucoup plus uniques, faits par n'importe quel... dans beaucoup de pays africains, il y a des artisans qui travaillent le cuir, il y a des artisans qui font des sacs, puis des traditions aussi dans le macramé, donc beaucoup, beaucoup d'initiatives sont plus uniques et plus humaines que cette espèce de monstre là, qui est là. le réseau là, de mode, de la mode mondiale, ou mode globalisante, je ne sais plus comment l'appeler. Là, mais voilà.
Comment la mode africaine peut être liée à la construction d'une identité de genre particulièrement féminine?
Mais je crois que ce qui est assez intéressant quand on s'intéresse à la mode africaine aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup des grandes figures, en fait, justement du panthéon qu'on évoquait tout à l'heure, sont des femmes. Donc, il y a des grandes couturières comme Oumoussi au Sénégal, justement, et Etienne Bassi au Nigeria. Et on est assez loin un peu du modèle du génie masculin qu'on voit beaucoup justement chez un Yves Saint Laurent, par exemple, ou en Occident, même qu'il y a quelques grands designers, on peut penser à Coco Chanel, Stella McCartney et compagnie, ça reste majoritairement masculin. Tandis que en Afrique, comme généralement, on puise dans beaucoup de traditions qui ont été léguées dans des lignées féminines, par exemple, il y a vraiment une présence assez forte des femmes. Et donc, c'est une industrie ou c'est un milieu, notamment via les écoles de mode qui sont ouvertes, qui permettent de nombreuses possibilités d'avancement pour les femmes dans plusieurs pays. Donc, ça permet aussi d'œuvrer dans ce milieu-là. Puis, évidemment, il y a toute la construction là, de l'identité personnelle qui est toujours présente lorsqu'on parle des questions de mode. Et évidemment, bon, c'est sûr que les notions de genre où on en est aujourd'hui dans les sciences sociales, où on parle de performativité, de non-binarité, ne sont peu présentes, du moins de ce que j'ai vu dans mes recherches concernant ce travail-là. Il faut dire que c'est pas du tout l'angle que j'avais au moment de ce travail-là, donc je voudrais pas trop me prononcer sur ce sujet, mais il reste que le foisonnement de la création vestimentaire en Afrique aujourd'hui amène à une pluralité de styles féminins où on n'est plus justement dans un modèle, par exemple, où toutes les femmes au travail devaient porter justement le style jus de crayon avec tailleur. T'sais, on est quand même dans un éclatement un peu à ce niveau-là, comme en Occident, en fait, au même moment.
Pour conclure, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il est juste de dire que les créateurs et les créatrices africains reçoivent toute la reconnaissance qu'ils méritent dans leur domaine, dans le domaine de la mode?
Mais je crois que au-delà de la reconnaissance, je crois que c'est surtout une question de considération. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 70, le simple fait d'être africain pouvait faire qu'une personne ne pourrait jamais être considérée justement quelqu'un faisant de la haute couture, quelqu'un étant un grand nom de la mode. Donc, ça a pris du temps à changer. Et c'est encore difficile, si je... Un petit peu comme dans le monde des arts, mais quand les gens appelaient Jean-Michel Basquiat le Picasso noir, là, donc le Black Picasso, ben il y a encore ça qui a subsisté pendant longtemps, cette idée de dire que tel artiste, ah, c'est un Yves Saint Laurent africain, c'est une Coco Chanel noire. Donc, toujours mettre les gens en relation avec une figure occidentale et pas les laisser être eux-mêmes. Et là, je crois que les années 2020, on est vraiment dans ce changement-là où, justement, les créateurs et les créatrices d'Afrique noire peuvent être eux-mêmes, en étant eux-mêmes, proposer quelque chose qui peut être apprécié, partagé, porté par plein de gens sans qu'on le rattache forcément à une grandeur occidentale et compagnie. Et donc, je crois que c'est une reconnaissance qui va vraiment venir en termes de mérite, puisque pour ce qui est de la qualité du design, du travail qui se fait là-bas, c'est assurément présent. Par contre, si on parle en termes de chiffres de vente, en termes de production, c'est sûr que, comme je le disais tout à l'heure, on est encore beaucoup dans la culture du flex, la passion des logos, donc les compagnies qui fonctionnent très bien en ce moment, ça va être Louis Vuitton, ça va être Balenciaga, ça va être des grandes marques européennes, où justement, c'est beaucoup le marché asiatique, le marché chinois, par exemple, où il y a une grande bourgeoisie émergente qui va souvent vouloir afficher des symboles de richesse. Donc, à moins qu'il y ait un changement dans la mentalité de l'industrie du luxe de ce marché-là, je crois qu'il va peut-être falloir un petit peu plus de temps. Mais le temps, je pense, va jouer à la faveur des designers d'Afrique, puisque éventuellement, cette production de masse des produits de luxe ne pourra pas être maintenue, et je crois que les gens vont devoir retourner justement dans une optique plutôt du sur-mesure, de l'objet unique et de la production là, et du savoir-faire là, concret.
Alexandre, merci beaucoup pour ton merveilleux exposé. Est-ce que tu aurais un mot de la fin?
Mon Dieu, ben j'étais content d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, pour celles et ceux qui s'intéressent à la mode africaine, il y a vraiment là, beaucoup là, de catalogues exceptionnels qui ont été faits dans les dernières années. Donc, si je peux vous en situer, vous en nommer un que je recommande. Fashion Africa Now, en fait, qui est rendu un magazine en ligne avec un podcast et compagnie. Donc, si vous allez voir Fashion Africa Now, c'est vraiment une super initiative qui permet d'en savoir plus sur ce qui se fait en ce moment sur le continent africain pour le designer contemporain là, que j'ai cité souvent. Donc, c'est TB Magugu, T-H-E-B-E, espace M-A-G-U-G-U. Donc, c'est un grand nom qu'on voit beaucoup ces temps-ci. Donc, pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à ça, je vous encourage là, à aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment incroyable. Puis, pour le reste, là, bon, achetez pas Louis Vuitton. C'est très mal. On s'éloigne de ça. Mais honnêtement, pour les gens qui sont passionnés par la mode et qui ça ne le dérange pas de mettre un petit peu plus d'argent là-dedans, ça vaut vraiment plus la peine de voir dans le côté des artisans, dans le côté du savoir-faire, que d'aller vers des marques. Ça ne coûtera pas plus cher se faire tailler un costume ou une robe que ce serait d'acheter quelque chose d'Alexander McQueen, par exemple. Et donc, si vous le faites au Québec, si vous le faites localement, ça encourage des business locaux. Et souvent, le résultat est beaucoup plus beau, beaucoup plus unique. Puis, pour le reste, les friperies, c'est très bien aussi. Si vous êtes dans un budget étudiant, les friperies, c'est bien. Il existe quand même déjà beaucoup de vêtements dans le monde et ils ne sont pas toujours produits de manière super éthique. Donc, cherchez des petits motifs là, comme ça. D'ailleurs, si vous vous intéressez justement à ces questions-là de réformer la mode, détruire la mode, il y a un organisme activiste très intéressant qui s'appelle Fashion Act Now, qui est un organisme international là, qui est basé beaucoup au Royaume-Uni, mais qui cherche des alternatives justement là, pour aller vers ce qu'on appelle de la post-fashion. Donc moi, mes recherches sur l'Afrique s'inscrivent justement dans cette volonté-là de trouver des systèmes alternatifs pour qu'on puisse justement là, développer des systèmes vestimentaires qui soient plus respectueux de l'environnement, des droits du travail, des personnes et tout ça. Voilà, merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et on souhaite à tous nos auditeurs une bonne fin de journée. Memoir na tinko ladera.